être avec vous pour parler de ce sujet. Qui suis-je? Qui voulez-vous être? C'était ça le titre à l'origine, mais c'était trop long pour mettre ça sur le flyer. Donc on a coupé un peu. Mais cette question de l'identité, Jésus est mon identité, je ne sais pas si c'est ça qui vous a attiré à venir ici. Et probablement on est toutes sortes de personnes avec toutes sortes d'arrière-plans différents, et c'est une bonne chose, hein, c'est ouvert à tout le monde, ces soirées d'invitation, peu importe ce que l'on croit. Et j'espère avoir une approche qui à la fois présente honnêtement ce que la foi chrétienne présente, mais aussi qui laisse la place à des discussions pour qu'on puisse ensemble cheminer autour de ce thème. Et le sous-titre de ce flyer était « Jésus et mon identité », parce qu'on veut s'intéresser, on va le voir, on va faire ça ensemble, à ce que Jésus a à nous dire sur la réalité de qui nous sommes. Est-ce que Jésus a quelque chose à nous dire, et comment est-ce que cela transforme ou pas la conception qu'on peut avoir de nous-mêmes. Et donc on va faire ça ensemble pour une trentaine de minutes, et puis ensuite on laissera la place, comme Steve l'a expliqué, pour différentes questions. Mais je voulais commencer juste en vous montrant ceci, si ça marche, voilà. Un site web de Tony Robbins, qui est un des coachs de développement personnel probablement les plus connus au monde. Voilà, c'est lui, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu. Il a un visage très souriant, très accueillant, c'est quelqu'un qu'on veut écouter, et qui a un discours très persuasif aussi. Il est donc coach de développement personnel, et sur une des pages principales de son site web, on peut lire ceci, « Trouvez qui vous êtes vraiment ». Et je ne sais pas si vous arrivez à lire tout en dessous en anglais, je vais traduire ça. Il écrit « Comprenez votre personnalité pour avancer dans votre carrière, pour mieux communiquer dans vos relations et pour comprendre vos motifs personnels. Découvrez qui vous êtes au plus profond de vous pour vivre une vie plus authentique. » Découvrez qui vous êtes au plus profond de vous pour vivre une vie plus authentique. Et donc le but de ce coach en développement personnel, c'est d'aider les gens à découvrir qui ils sont, d'aider les gens à découvrir leur identité. Il a travaillé avec des personnes célèbres comme Serena Williams, Bill Clinton, Leonardo DiCaprio, voilà, des personnes très connues et reconnues. Pour assister au prochain événement où il parle, il faut payer au moins 1 000 $. J'ai regardé le prix des places, et les places les plus élevées vont jusqu'à 3 500 $. Et c'est juste pour nous aider à comprendre, à réaliser que les gens sont prêts à payer cher pour savoir qui ils sont réellement. Pour avoir quelqu'un qui va leur dire « mais quelle est mon identité ?» C'est quelque chose qui nous intéresse, qui évoque notre curiosité. Et je pense qu'on est tous un peu comme ça. On le voit par exemple avec les tests de personnalité. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous aimez faire, vous êtes peut-être attiré par ça. Mon colocataire Noah m'a obligé à relever un test de personnalité qui s'appelle 16 personnalités. Et le sous-titre de ce site dit « Prenez ce test de personnalité et vous aurez une évaluation terrifiante de qui vous êtes et de pourquoi est-ce que vous faites les choses de la manière dont vous le faites. » Et quand on lit ça, quand on voit ça, on est attiré par ça. On veut savoir qui on est. On veut avoir quelqu'un qui nous dit « mais voilà qui tu es ». Alors j'ai relevé ce test et la réponse m'a un peu surpris. Je ne suis pas vraiment en accord avec ce qui est dit. Mais c'était dit que j'étais un protagoniste et il était écrit ceci. « Les protagonistes sont des leaders nés, remplis de passion et de charisme. Ils forment environ 2% de la population et ils sont souvent nos politiciens, nos coachs et nos enseignants. » Donc voilà, c'était très gratifiant pour l'ego. J'ai envie de croire ce qui est écrit ici et de me lancer en politique, mais ce n'est pas ce que je vais faire. Mais c'est simplement pour nous montrer qu'on veut savoir qui l'on est. La question de l'identité nous intéresse, évoque, pique notre curiosité. Et donc c'est ce qu'on va voir ensemble, et on va voir 3 choses principales ensemble, et elles seront affichées ici. D'abord, qu'est-ce qui définit notre identité? On ira un peu plus vite là-dessus. Dans quoi est-ce qu'on pourrait mettre notre identité? Quelles sont différentes possibilités? Ensuite, qui a le droit de définir notre identité? Qui a le droit de nous dire qui nous sommes? Et puis, on terminera en voyant ce que la Bible a à nous dire, ce que Jésus a à nous dire sur notre identité, et de voir ce que ça change pour notre conception de la vie. Donc d'abord, qu'est-ce qui définit qui je suis? Si on y pense, il y a plusieurs domaines dans lesquels on pourrait trouver notre identité. Peut-être une manière de définir son identité, ce serait de mettre son identité dans son activité. On définit notre identité en fonction de ce qu'on fait. C'est mon métier, c'est mon activité professionnelle qui va définir qui je suis. Et on voit bien ça, par exemple, quand on est à une soirée comme ici, on ne connaît pas tout le monde, une des premières questions qu'on demande, c'est « qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» Et en fonction de la réponse, on va catégoriser la personne. Ah voilà, lui, il est maçon, donc il doit être bricoleur. Ou lui, il est informaticien, donc il doit bien s'y connaître avec l'ordinateur. Ou telle personne travaille dans le domaine médical, donc elle n'a pas peur des maladies ou du sang ou de choses comme ça. C'est pas mauvais en soi. Savoir ce que les gens font dans la vie, leur activité, nous apprend des choses sur qui ils sont, sur leur personne. Mais le problème, c'est qu'avec tout ça et avec ce monde dans lequel on vit, on peut très vite mettre notre identité profonde dans ce qu'on fait, dans notre activité, dans notre réussite professionnelle. Et je pense que si on fait ça, malheureusement, il y a des problèmes sérieux qu'on peut rencontrer. D'abord, qu'est-ce qui se passe si je perds mon... On reviendra à ça après. Qu'est-ce qui se passe si je perds mon travail du jour au lendemain? Si je perds mon travail, mon activité professionnelle, est-ce que qui je suis a changé subitement du jour au lendemain? Est-ce que ma valeur dans la société a chuté du jour au lendemain? Et je pense qu'on voit ça justement bien avec les sportifs de haut niveau où c'est très facile pour eux de se définir, de trouver leur identité dans ce qu'ils font, dans leur activité professionnelle, parce que le sport occupe une place cruciale, importante dans leur vie. Toute leur enfance a été vécue à la lumière de ça, de ce métier qu'ils vont faire. Toutes leurs journées sont orientées en fonction de ça. Et je lisais justement un coach spécialisé du sport qui décrivait la fonction du sport dans la vie des athlètes de haut niveau. Et il écrivait ceci. Il disait que la première fonction du sport dans la vie des athlètes de haut niveau, c'est ceci. Si vous êtes un athlète sérieux et que vous faites de la compétition depuis assez longtemps, vous allez bientôt vous voir vous-même sous l'angle de votre sport. Il s'agit de qui vous êtes et de ce que vous faites. Grâce à votre investissement à long terme et à votre engagement en temps, en énergie et en douleur au fil des ans, votre sport est devenu une partie intégrante de qui vous êtes. C'est la façon dont vous vous voyez et la façon dont les autres vous voient. Lorsque vous participez à des compétitions, ce sentiment d'identité s'élargit encore pour inclure le rôle que vous jouez dans votre équipe, tant sur le plan tactique que social et émotionnel. Donc on arrive bien à comprendre ça, que pour quelqu'un qui fait du sport, un athlète de haut niveau, son identité est définie en fonction de ce qu'il fait. Mais le problème, c'est qu'est-ce qui se passe quand il perd son activité du jour au lendemain? Qu'est-ce qui se passe quand un sportif de haut niveau se blesse? Est-ce que la définition de qui il est a changé radicalement du jour au lendemain parce qu'il est blessé? Et c'est une chose terrible pour des sportifs de haut niveau d'être blessés, de plus pouvoir pratiquer leur sport. Et justement, ce coach spécialisé continue en disant ce qui se produit, ce qui se passe quand un athlète de haut niveau se blesse. Et il dit ceci, « Si la blessure est suffisamment importante pour vous tenir à l'écart pendant une période assez longue, la première chose que vous pouvez perdre est votre identité en tant qu'athlète et membre de l'équipe. Vous commencez à vous demander qui vous êtes si vous n'êtes pas constamment dans la piscine, sur le terrain, sur le circuit ou sur le court, en train de pratiquer votre sport et d'y participer. Une gymnaste olympique définitivement écartée de son sport en raison d'une blessure qui a mis fin à sa carrière l'a clairement exprimé. Elle disait ceci, « Je fais de la gymnastique depuis l'âge de 6 ans. C'est tout ce que je connais, c'est ce que je suis et c'est ce que je fais. Si je ne suis pas une gymnaste, qui suis-je vraiment ? Qui suis-je vraiment ?» On voit ressortir ici la question de l'identité. Si mon activité définit qui je suis, alors c'est quelque chose qui n'est pas stable, c'est quelque chose qui peut bouger. Et mon identité peut aussi être instable. Et ce sens d'identité profonde dans ce qu'on fait n'est pas réservé qu'aux sportifs. On peut voir ça avec notre activité professionnelle, avec notre rang dans la société, avec notre place dans un travail, dans un job, avec le diplôme qu'on a obtenu. On peut mettre notre identité profonde dans ces choses. Mais le problème, c'est que dès qu'on perd ces choses, alors qu'est-ce qui se passe? Notre identité s'écroule? On y répondra plus en détail après. Mais aussi, qu'est-ce qui se passe si je ne suis pas dans la norme? Si mon identité est définie en fonction de mon activité, alors qu'est-ce qui se passe si je n'ai pas d'activité professionnelle et que je suis au chômage, par exemple? Est-ce que ça veut dire que je n'ai aucune valeur dans la société? Est-ce que ça veut dire que je ne suis personne aux yeux des autres? Ou si ce qui me définit au sens le plus profond, c'est ce que je peux apporter à la société, alors qu'est-ce qu'il en est si je suis dans l'incapacité physique de travailler? Qu'est-ce qu'il en est si je suis pensionné? Qu'est-ce qu'il en est si j'ai une maladie profonde qui m'empêche de faire des choses? Et on voit bien là que la question de l'identité a des implications éthiques très concrètes. Et ça aussi, on y reviendra. Donc ça, c'est une première manière de définir son identité dans mon activité. Une autre manière qu'on pourrait avoir de définir son identité, c'est dans ma valeur aux yeux des autres, dans l'image que je renvoie aux autres. En fonction de l'image qu'on projette, de ce que les gens pensent de nous, de la manière dont les gens nous perçoivent. Et c'est très facile aujourd'hui avec les réseaux sociaux, avec l'ère dans laquelle on vit, des médias, des réseaux sociaux. On peut facilement créer l'image qu'on veut de nous-mêmes. Je peux être qui je veux être. Je peux être qui je veux paraître d'être. Je choisis ce que je publie. Et je choisis comment je le publie. Je peux publier uniquement des photos sous mon beau jour où je vais montrer que ma vie est épanouie, que je m'ennuie jamais. Et les gens ne verront pas la réalité. Mais le problème, c'est que Je peux faire paraître tout ce que je veux aux yeux des gens, ça ne change pas qui je suis réellement. Ça, c'est seulement l'image que je projette, c'est seulement ce que je fais croire aux gens que je suis, mais ça ne change pas qui je suis réellement. Le vrai moi n'a pas changé. Et quand on enlève les filtres Instagram, quand on enlève toutes les paillettes, qu'est-ce qui reste ? Bah, le vrai nous, qui on est, notre identité. Donc ça, c'est une autre manière de définir notre identité. On va assez vite sur ces choses, et en plus, il y aurait beaucoup d'autres qu'on pourrait ajouter, mais juste pour nous aider à entrer un peu dans ces discussions de l'identité. Une autre manière dont on pourrait définir notre identité, et c'est un sujet très d'actualité aujourd'hui, c'est la sexualité. On ne peut pas ne pas parler de sexualité quand on parle de l'identité, parce que le discours ambiant, c'est de dire que notre sexualité, notre manière de voir la sexualité, c'est ce qui nous définit, c'est ce qui fait notre identité la plus profonde. Si je ressens une attirance envers les personnes du même sexe, alors c'est ça qui va faire mon identité. C'est ça qui va définir qui je suis et la manière dont je vais voir toute la vie, dont je vais considérer ma vie entière. C'est ce que je suis au plus profond de moi. Et je pense que c'est ce qu'on peut remarquer dans beaucoup de témoignages de coming out, de gens qui déclarent publiquement leur homosexualité, qui disent « mais c'est ce que je suis au plus profond de moi, je ne peux pas me cacher, c'est mon identité et je dois la déclarer ». On voit le désir de définir notre identité en fonction de notre sexualité. Mais ça peut être le cas aussi en fonction de manière plus large, de notre état civil, qu'on soit célibataire, marié, divorcé ou quoi que ce soit. On peut se dire « mais c'est ça qui définit qui je suis ». Par exemple, on peut se dire « mais puisque la norme dans ce monde, c'est d'être marié avec des enfants, alors si je suis célibataire, mais j'ai aucune valeur dans la société. Je ne suis pas encore qui je dois être vraiment. Et il y a quelque chose qui me manque ». Et ça, ça montre que si on pense comme ça, si on raisonne comme ça, notre valeur, ce qui fait notre identité, est placée dans notre statut marital ou dans l'image qu'on renvoie aux yeux des autres. Donc voilà juste quelques questions d'introduction pour nous aider à réfléchir à cette question de qu'est-ce qui peut définir notre identité. Mais je pense que là où on en est, c'est utile de juste prendre un peu de recul, de se dire, mais au final, qui a le droit de définir qui je suis ? Quelle autorité peut me dire qui je suis réellement, qui a le droit de définir mon identité? Et si on y pense, il n'y a que deux solutions qu'on peut apporter à cette question. Soit c'est moi-même, soit c'est quelqu'un d'autre. Et on va voir ça ensemble. Donc, une des solutions, ce serait de dire c'est moi-même qui peut m'auto-attribuer l'identité que je suis ou que je souhaite ou que je ressens. Et je pense que c'est ce que le discours majoritaire qu'on a aujourd'hui, c'est que l'identité, c'est quelque chose que je choisis moi-même. Qui a le droit de me dire qui je suis? Bah, la réponse paraît évidente, c'est moi. C'est moi qui a le droit de me dire qui je suis. Et c'est assez logique dans la culture dans laquelle on vit, qui est assez individualiste, surtout en Occident, où c'est nous-mêmes qui décidons ce que nous voulons pour nous-mêmes. Et donc on applique ça aussi à l'identité, c'est moi qui définis qui je veux être. Et donc ce que je suis ne sera pas forcément cohérent avec ce avec quoi je ressemble. Par exemple, quand on parle de la question du genre aujourd'hui, on nous dit que c'est pas parce que quelqu'un ressemble à un homme qu'il sera forcément un homme. Le genre est un choix personnel. Le genre est même une construction sociale. Vous avez peut-être entendu, vous avez peut-être vu cette vidéo qui a pas mal fait de bruit sur Internet de cet homme qui était invité sur une émission télé pour parler de la question du genre. Et le présentateur télé, où j'ignore ce qu'il faisait dans cette émission, mais il disait, il admettait que voilà, il n'y avait que des hommes sur le plateau, en regrettant un peu ça. Et cet homme a répondu en disant, mais je ne sais pas ce qui vous fait dire que je suis un homme. Et donc le présentateur a répondu en disant, mais c'est votre apparence, monsieur, vous êtes chauve et barbu, vous êtes un homme. Et il a dit, et cet homme a répondu qu'il trouvait ça assez offensant, parce que ce présentateur était en train de confondre l'identité qu'on percevait et l'identité qu'on ressentait. Parce que pour lui, il a dit ça assez clairement, je ne suis pas un homme. Et il allait même plus loin en disant, mais je ne suis pas blanc. C'est pas parce qu'il avait l'air d'être blanc, de couleur de peau, qu'il l'était réellement au fond de lui. Et c'est juste pour illustrer ce qu'on peut, la manière dont le genre est vu aujourd'hui, c'est un choix. C'est un choix personnel. Ce que je ressens, alors c'est ce que je suis. On peut devenir ce qui on veut être. Et j'ai trouvé cette citation sur Internet que je trouve assez marquante pour montrer bien ce qu'on veut mettre en avant par là sur l'identité. Mais qui voulez-vous être ? Désirez-vous devenir le mouton qui suit la foule ou le loup qui décide et crée son propre destin ? La réalité est que vous êtes libre de choisir tout ce que vous voulez. La route que les autres veulent vous faire prendre n'est qu'une illusion. Vous pouvez aller n'importe où et être la personne que vous voulez être. Le choix vous appartient. Est-ce que vous voulez être un loup qui décide et crée son propre destin ? Mais vous le pouvez. Le choix vous appartient pour définir votre identité, pour définir votre genre et tout ce que vous êtes. Mais avant d'aller plus loin dans ce que la Bible nous dit, on peut déjà dire qu'il y a plusieurs problèmes avec la manière de raisonner qui dit que mon genre ou mon choix ou mon identité est dans mon choix, dans ce que je ressens. D'abord parce que comment savoir si ce que je ressens est juste ? Ce n'est pas parce que je ressens quelque chose que ça fait que c'est moralement bon, moralement acceptable. Il faut que je m'assure que mes sentiments soient les bons et que mes sentiments soient appropriés. Ce qu'on ressent n'est pas toujours juste, et je pense qu'on peut voir ça dans notre vie de tous les jours. Si on se dispute avec quelqu'un, qu'on ressent de la haine, on a peut-être même envie d'être violent à son égard, ça ne veut pas dire que c'est quelque chose de juste, de moralement bon. Pourtant, on le ressent très bien. C'est quelque chose de personnel qu'on ressent au fond de nous. Donc, il ne faut pas confondre le fait qu'on a un sentiment personnel profond, quelque chose qu'on ressent, et le fait que ça soit forcément juste ou acceptable. Mais aussi, il y a un problème si on dit que... si on dit tu es libre d'être qui tu veux être, mais comment être ce que je veux être? Si on affirme cela, que l'identité est un choix, quelque chose qu'on choisit nous-mêmes, on doit voir qu'il y a des inégalités profondes, parce que beaucoup d'entre nous ne sommes pas ce que nous voulons être. Je voulais être joueur de foot professionnel, mais j'ai pas pu l'être. Je voulais être chanteur, mais j'ai pas pu l'être. Je voulais être telle ou telle chose, mais j'ai pas pu l'être. Et alors qu'est-ce qui se passe si je ne suis pas ce que je veux être? Si l'identité est un choix, qu'est-ce qui se passe si je ne serai jamais celui que je veux être? Et c'est là qu'on peut voir qu'il peut y avoir une vraie souffrance liée à l'identité, si l'identité est un choix. Je n'arrive pas à être ce que je veux être et je ne le serai jamais. Je vais être chanteur, mais je n'ai pas une belle voix. Je vais être père de famille, mais je suis toujours célibataire. Je vais être aimé des autres, mais je suis tellement différent d'eux. Il peut y avoir une vraie souffrance que les gens ressentent. Donc je pense qu'il y a des limites si on dit que c'est nous-mêmes qui définissons notre propre identité. Et alors, quelle serait l'autre solution? Ce serait qu'une autorité supérieure définisse qui l'on est. Et alors là, quand on entend parler d'autorité supérieure, on a envie de dire, oulala, attendez, c'est un peu trop ça, on n'est pas à l'aise avec cette idée-là que quelqu'un d'autre nous dicte la manière dont on doit vivre, quelqu'un d'autre nous dicte qui on doit être. Et cette réticence se comprend parce qu'il y a eu tellement d'abus dans l'histoire de choses qui ont été faites, qui ont été imposées de manière illégitime, mais même des choses, malheureusement, au nom de la Bible, au nom du christianisme, où des identités ont été attribuées à des gens, des manières de se comporter, d'être, et c'est quelque chose de terrible, d'atroce, qui n'aurait pas dû avoir lieu. On pense, par exemple, malheureusement, c'était le cas avec le racisme pendant trop longtemps. Si tu as une certaine couleur de peau, alors voilà qui tu dois être, voilà ta place dans la société, voilà comment tu dois te comporter, voilà ton rang. Tu n'as pas le droit de t'asseoir à côté de nous dans le bus, tu ne peux pas manger avec nous, tu dois vivre différemment. C'est des choses réelles qui sont passées, qui étaient terribles. C'est outrageux que ça ait eu lieu, mais il n'y a pas si longtemps que ça, au XXe siècle. Et on peut penser à d'autres choses qui étaient similaires, le nazisme, ou même à la place des femmes dans la société, ou qui sont encore dévaluées. Une identité qui a été attribuée, qui a été forcée de manière illégitime. Et donc on a ressenti cet abus de la part d'autorités supérieures, et je pense que c'est ce qui nous amène à dire « mais je ne veux pas que quelqu'un d'autre me dise qui je suis ». C'est ce qui nous amène à désirer, à vouloir cette indépendance. Mais c'est moi qui définis qui je suis parce qu'on est réticent de vivre à nouveau cela. Et je pense que c'est en partie pour cela qu'il y a beaucoup de craintes vis-à-vis de la foi chrétienne qu'on voit comme quelque chose d'imposé, quelque chose de dépassé. Simplement une liste de choses à faire, de règles à suivre, de commandements à respecter. Et je pense que cette réaction, cette réticence est bonne, en partie, et appropriée, parce que c'est normal de s'indigner devant les crimes atroces qui ont été commis. Ces choses n'auraient pas dû avoir lieu. Et le fait que certains de ces crimes ont été commis au nom de la Bible, ça rend la chose encore plus outrageuse et terrible. Et donc cette indignation est normale. Mais pour autant, on ne doit pas jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est pas pour autant qu'on doit dire que toute autorité est mauvaise. Et j'aimerais juste mettre en avant plusieurs choses par rapport à ça. D'abord, on doit réaliser que le christianisme est justement la solution à ces crimes terribles qui ont été commis, en donnant à la vie humaine une valeur intrinsèque, une valeur particulière. Le christianisme fait ça de manière remarquable, et on peut penser par exemple à Martin Luther King, qui a été un des acteurs principaux pour les droits civiques au XXe siècle, et qui l'a fait en partie au nom du christianisme, et qui se basait justement sur cette valeur que porte chaque être humain, peu importe sa couleur de peau, peu importe son rang dans la société. J'ai lu cette semaine cette citation de Martin Luther King qui montre cela. Il disait ceci: « Il n'y a pas d'échelle graduée dans la valeur essentielle des êtres humains. Chaque être humain a l'empreinte indélébile du Créateur gravée dans sa personnalité. Chaque homme doit être respecté parce que Dieu l'aime. » Et on voit que ça, c'est quelque chose qui est particulier au christianisme, on reviendra sur cette idée-là, mais qui a des implications pratiques énormes concernant l'identité, concernant la manière dont on va traiter les autres autour de nous. Donc le christianisme, cette idée-là, est justement la solution à ces crimes. Mais on doit réaliser aussi que si on enlève ça, si on enlève cette idée de la valeur des êtres humains, alors il n'y a plus rien qui reste dans la société. Et on doit mettre de côté des choses qu'on tient aujourd'hui comme acquis, par exemple les droits de l'homme, qui sont basés justement sur cette dignité des êtres humains, sur cette valeur de l'être humain. S'il n'y a pas ce principe établi qui vient de la notion d'un Dieu créateur, alors sur quelle base est-ce qu'on peut dénoncer le meurtre, par exemple? Je lisais il y a quelques mois la biographie de quelqu'un qui a travaillé en Inde et qui disait que la norme là-bas, la coutume, c'était de tuer les femmes des maris qui sont morts, les veuves. C'est juste la norme de ce qui était fait. Mais s'il n'y a pas une valeur intrinsèque dans l'être humain, comment dénoncer ça? Mais justement, au nom du christianisme, on peut dire que ces choses ne doivent pas être commises, ces actes ne doivent pas être commis. Ensuite, on doit réaliser que même s'il y a eu des abus, le problème, ce n'est pas le fait d'avoir une autorité supérieure. Une autorité supérieure n'est pas forcément mauvaise. Le problème qu'il y a eu, c'est que ces autorités qui étaient là, ces gens qui avaient le pouvoir, étaient mauvais, avaient des intentions mauvaises. Et donc, on fait des crimes atroces. Mais ce n'est pas le fait d'avoir une autorité en soi qui était la racine du problème. Tout dépend de la qualité morale de la personne qui dirige. On voit ça, par exemple, pour ceux qui ont des enfants. Quand un parent dit à son enfant « ne fais pas ça, ne touche pas à ça », l'enfant ne va pas dire « mais laisse-moi tranquille, je fais ce que je veux, je suis qui je veux être ». Non, ça n'aurait aucun sens. Parce que les parents sont là pour avoir une autorité qui est bonne, pleine de bonnes intentions envers l'enfant. Donc la notion d'autorité n'est pas mauvaise en elle-même. Et enfin, on doit dire aussi que les normes morales sont nécessaires, parce qu'on a besoin d'un cadre moral pour vivre. Si chacun fait ce qu'il veut, si chacun peut définir qui il veut être, alors ça va être l'anarchie. Il n'y a aucun moyen de dire « mais toi, tu n'as pas le droit de faire ça parce que ça me porte atteinte ». S'il n'y a pas une norme morale supérieure, s'il n'y a pas un critère transcendant qui permet de définir le bien et le mal. On a besoin d'un cadre moral, et ce cadre moral, seule une autorité supérieure peut l'apporter. Et donc c'est ces choses qui mises en place, nous amènent à considérer ce que la Bible a à nous dire sur la question de notre identité, sur la question de qui nous sommes. Et je pense que c'est un sujet sur lequel la Bible a beaucoup à dire, et on va voir trois choses ensemble, trois déclarations de la Bible sur notre identité, sur la manière de considérer qui nous sommes, à la lumière de tout ce qu'on a déjà vu ensemble. La première chose que la Bible nous présente par rapport à nous, par rapport aux êtres humains, c'est que nous sommes des êtres humains créés à l'image de Dieu. Nous sommes des êtres humains créés à l'image de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Je lis juste deux versets qui sont dans la Bible. Le Genèse, c'est le premier livre de la Bible. C'est avec ça que la Bible s'ouvre, dans un sens, le récit biblique qui raconte la création de l'humanité par Dieu, la réalité d'un Dieu qui existe et d'un Dieu qui a créé ce monde et d'un Dieu qui a créé les êtres humains. Et voici ce qu'il a écrit dans ses tout premiers versets. « Dieu créa l'homme, l'être humain, à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. » Et quelques versets plus loin, on peut lire « Dieu regarda tout ce qu'il avait fait et il constata que c'était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le sixième jour. » Donc ça, c'est des versets dans un sens fondateur par rapport à la compréhension de qui nous sommes. On voit qu'il y a un Dieu qui existe et qui nous a créés, qui a créé les êtres humains, hommes ou femmes. Et non seulement ça, mais qui nous a créés à son image, à l'image de Dieu. L'image de Dieu, c'est simplement... On voit quand on voit une image n'est pas la réalité. Une image pointe vers une réalité. Et quand on est créé à l'image de Dieu, quand il est dit que les êtres humains sont l'image de Dieu, c'est ce que la Bible enseigne, ce que les chrétiens croient, ça veut dire que les êtres humains ont été créés pour refléter qui Dieu est. En voyant les êtres humains, on apprend certaines choses à propos de qui Dieu est, de son caractère, de sa personne. Les êtres humains reflètent qui Dieu est. Et on va voir ce que ça implique, mais ça a des implications considérables pour notre compréhension de la vie, mais aussi pour notre compréhension de qui nous sommes. Et j'aimerais juste en lister quelques-unes. D'abord, on voit avec ces premiers versets qui ouvrent le récit de la Bible qu'une bonne autorité supérieure est possible. C'est ce qu'on a vu, on a besoin d'un cadre moral et on a besoin de quelqu'un qui règne, qui exerce son autorité de manière bonne et bienveillante. Et c'est ce que la Bible offre, c'est ce que la Bible présente. Un Dieu qui existe, qui n'est pas, comme on l'imagine souvent, un père fouettard dont le seul rôle est de punir et de nous corriger. Pas non plus un Dieu qui est lointain, qui a créé le monde pour le laisser tourner et pas s'en soucier, mais un Dieu bon et bienveillant, qui a créé les êtres humains, qui a créé une création parfaite. On a lu dans ces versets qu'il était dit, il constata que c'était très bon. Tout ce que Dieu a créé est très bon, une valeur morale parfaite. Donc on voit avec ces versets qu'une bonne autorité supérieure est possible. Et ce Dieu-là connaît toutes choses. Et donc c'est lui qui a même de définir ce qui est bien et ce qui est mal. Mais on voit aussi avec ces versets, avec ces phrases de la Bible, que notre identité, c'est un cadeau de Dieu. Nous sommes des êtres humains, hommes ou femmes, créés par Dieu. Et c'est ça que nous sommes au plus profond de nous, avant toute autre chose. C'est ça notre identité la plus profonde, la plus secrète. Et donc ça veut dire qu'on n'a pas essayé de se découvrir qui on est. On n'a pas essayé de sonder, de se creuser la tête pour savoir mais qui je suis vraiment au fond de moi. On a la réponse. Dieu nous a donné la réponse. Voilà qui vous êtes, des êtres humains que j'ai créés. Je suis un homme ou une femme créée à l'image de Dieu parce que ça m'a été donné par Dieu et c'est une bonne chose. Et on voit ici que l'identité, ce n'est pas un choix de notre part. C'est quelque chose que Dieu nous donne. Et parce qu'il est un Dieu bon et bienveillant, alors c'est une chose qui est intrinsèquement bonne. Mais on voit aussi avec ceci que chaque vie humaine a de la valeur et a la même valeur. Parce qu'on voit ici que l'homme et la femme sont tous les deux créés à l'image de Dieu pour refléter qui Dieu est. Et c'est ce qui donne à la vie humaine une valeur particulière. À chaque vie humaine, peu importe le rang social, peu importe les aptitudes physiques, peu importe l'âge, peu importe le pays d'origine, peu importe la couleur de peau, chaque être humain a une valeur particulière. Chaque être humain reflète qui Dieu est. Chaque être humain porte l'image de Dieu. Et ça, c'est le fondement de l'éthique chrétienne et c'est ce qui fondait le combat de Martin Luther King contre le racisme, de dire « mais c'est pas juste, c'est pas quelque chose d'approprié parce que les êtres humains sont égaux en valeur. Tous les êtres humains sont égaux en valeur. » Donc être un homme ne vaut pas mieux qu'être une femme et vice-versa, être une femme ne vaut pas mieux qu'être un homme. Chaque être humain a la même valeur. Mais aussi, on peut dire que cette identité que Dieu nous donne définit le but de nos vies. Parce que si la vie est le fruit du hasard, si on est sur Terre sans savoir pourquoi, alors quel est le but de la vie ici-bas? Pourquoi vivre? Pour quelle raison vivre? Pour quel but? Mais si je suis un être humain créé par Dieu, que Dieu a voulu sur Terre, alors ma vie a un but. Et ma vie trouve un but dans l'accomplissement de qui Dieu est, dans la relation avec Dieu. Donc ça, c'est la première déclaration de la Bible vis-à-vis de qui nous sommes. Et on voit que ça a déjà des implications assez grandes. Mais la deuxième chose que la Bible présente par rapport à notre identité, une chose beaucoup plus sobre, beaucoup plus triste, mais tout aussi réelle, c'est que nous ne sommes plus ce que nous devrions être. Parce que ce tableau idyllique d'une création parfaite de Dieu qui a créé le monde n'est pas resté longtemps. Et en regardant autour de nous, on se dit bien, mais les êtres humains sont loin de refléter parfaitement qui Dieu est. On entend parler de guerre, de choses atroces, de haine, on voit même dans nos vies, comment est-ce qu'on pourrait refléter un Dieu qui est bon et qui est bienveillant? Et on doit réaliser qu'il y a une cassure terrible qui s'est passée et qui a eu des conséquences sur le reste de l'humanité. C'est l'histoire de Adam et Ève. On entend beaucoup parler de cette histoire, même dans la culture populaire, mais ce n'est pas un mythe, c'est une histoire réelle de ce qui s'est passé dans le monde, que Dieu a créé Adam et Ève, leur a donné plein de bonnes choses, une bonne création dans laquelle profiter, dans laquelle vivre, où ils avaient tout ce dont ils avaient besoin, et une seule interdiction par laquelle Adam et Ève pouvaient montrer leur reconnaissance, leur obéissance envers Dieu, de ne pas manger les fruits d'un certain arbre. Et malheureusement, Adam et Ève ont désobéi, et cela a eu des conséquences cosmiques sérieuses, terribles. Cela a causé l'entrée du mal dans le monde, l'entrée du péché, de la rébellion envers Dieu dans le monde. Et c'est en conséquence de ça que Dieu a maudit le monde. On pourrait se dire, mais est-ce que cette réaction de la part de Dieu n'était pas un peu exagérée? Voilà, ils ont mangé un simple fruit, et toutes ces conséquences-là, on doit réaliser l'offense qu'était cet acte. Ce n'est pas juste un acte banal, mais c'était les êtres humains, des êtres créés par Dieu, par le Dieu de l'univers, le Dieu qui est au-dessus de toute autre chose, qui disaient à Dieu, non, je ne veux pas écouter ce que toi tu me dis. Tu m'as dit ce qui était bien pour moi, tu as défini le bien et le mal, mais moi je ne veux pas écouter, je veux vivre de manière indépendante. Je veux tourner le dos à qui tu es. Ça, c'est ce qu'ont fait les Adam et Ève, les premiers êtres humains, et c'est ce qui a eu des conséquences dans ce monde. Mais on voit que c'est quelque chose qui nous concerne nous-mêmes aussi. Cette offense, c'est quelque chose dont on est également coupable. Et j'aimerais lire ces versets plus loin dans la Bible, dans le Nouveau Testament, qui est écrit après la venue de Jésus, qui dit ceci. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient depuis la création du monde. Elles se comprennent par ce qu'il a fait. Donc cette première phrase nous permet de voir que le monde que Dieu a créé nous permet de voir qu'il existe. Par tout ce que Dieu a créé, la merveille de la création, la merveille de la nature, on voit qu'il y a quelqu'un derrière tout ça. Il y a un architecte qui a pensé, qui a fait ces choses. Mais quelle était la conséquence, la réaction des êtres humains? Il continue, ce verset continue en disant « Ils sont donc inexcusables, puisque tout en connaissant Dieu, en voyant que Dieu existe par la création, ils ne lui ont pas donné la gloire qu'il méritait en tant que Dieu, et ne lui ont pas montré de reconnaissance. Au contraire, ils se sont égarés dans leur raisonnement, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. » Donc c'est quelque chose qui nous concerne, nous. Il a dit que les êtres humains, nous-mêmes, on est compris là-dedans, on n'a pas donné à Dieu la gloire qu'il méritait en tant que Dieu. On a vu tout ce monde que Dieu a créé, on a vu qu'il y avait un Dieu qui existait, mais on a choisi de lui tourner le dos. On a choisi de vivre notre propre vie, de dire à Dieu, « Non, je ne veux pas que tu règnes sur ma vie, je ne veux pas que ce soit toi qui dictes la manière dont je dois vivre, c'est moi qui définis ce que je veux faire. » Et c'est quelque chose de sérieux. On a dit ça au Dieu de l'univers, à celui qui règne sur ce monde, qui contrôle toute chose, qui connaît toute chose. On a offensé Dieu. Et c'est ce qui fait que notre identité a été profondément affectée. On reste des êtres humains créés à l'image de Dieu, mais c'est comme si cette image avait été froissée, elle était corrompue. Et on a une autre identité qui nous colle à la peau, qu'on ne peut pas se débarrasser par nous-mêmes. C'est qu'on est pécheur, qu'on est corrompu. Quand on pense au péché aujourd'hui, on pense à ça, un gâteau au chocolat. Et si on en mange, c'est un peu un péché mignon, c'est quelque chose qu'on ne devrait pas faire. C'est en cherchant, voilà, en tapant péché sur Google, je suis tombé là-dessus. Mais ça, c'est la manière dont on pense que le péché est, mais la manière dont la Bible définit le péché, c'est beaucoup plus sérieux, beaucoup plus grave que ça. C'est une transgression de ce que Dieu attend de nous. C'est dire au Dieu de l'univers, non, c'est moi qui décide. C'est se rebeller contre Dieu, c'est tourner le dos à Dieu. Et le péché, c'est ce que nous sommes. C'est l'état de notre cœur. Et si on est honnête avec nous-mêmes, chacun de nous, on devrait affirmer qu'on n'est pas bon comme on devrait l'être et qu'on est loin de l'être. Imaginez qu'il existe une application qui permet de lire dans les pensées. Si les gens ont cette application, ils peuvent lire dans vos pensées. Combien est-ce que vous serez prêt à payer pour que les gens n'utilisent pas cette application sur vous? Et moi le premier, on sait qu'on a des choses qu'on veut cacher, qu'on ne voudrait pas que les autres gens voient. Au plus profond de nous, dans ce que nous sommes, on sait que ce n'est pas beau. On peut cacher son historique de navigation, ce qu'on fait sur Internet et ce qu'on est devant les gens, mais Dieu voit notre cœur. Dieu voit nos pensées. Dieu voit qui on est au plus profond de nous-mêmes. Et malheureusement, c'est pas beau à voir, on est pécheur, corrompu, avec un cœur qui est mauvais. Et cette identité qu'on a d'être humain pécheur, c'est pas ce qu'on devrait être. On ne doit pas être dans cet état-là devant Dieu. C'est la conséquence d'une rébellion et c'est ce qui nous met face à un jugement de la part de Dieu. Pas parce que Dieu serait cruel. Souvent, quand on entend parler que Dieu juge, on se dit « mais c'est un peu cruel pour Dieu de juger ». Mais si on y pense, ce n'est pas comme ça qu'on raisonne dans le monde. Si quelqu'un vole notre maison, que les criminels sont arrêtés, quand le juge prononce son jugement, on ne va pas dire « ah, monsieur le juge, vous êtes cruel ». Non, vous êtes juste. Il y a un mal qui a été commis. Le jugement doit être prononcé, doit être rendu. Et c'est la même chose vis-à-vis de Dieu. Dieu juge parce que le mal qui a été commis est sérieux. Et donc, nous sommes, en tant qu'être humain, chaque être humain, face à un jugement de la part de Dieu. Et le jugement qu'on mérite, c'est une punition éternelle de la part de Dieu, que la Bible appelle l'enfer. Une punition terrible qui pèse au-dessus de nos têtes, qu'on mérite, et qui fait que s'intéresser à cette question aujourd'hui de notre identité, de la manière dont Jésus définit qui nous sommes, c'est très important, c'est urgent, c'est pas un détail de la vie. Mais on a cette identité qui nous colle à la peau, dont on peut pas se débarrasser nous-mêmes, et on a besoin d'une solution. Et c'est là où la Bible ne s'arrête pas là dans la manière dont on définit notre identité, on va y revenir. Mais c'est là aussi qu'on doit réaliser que cette identité qu'on a affecte tout ce qu'on fait. Voilà, ça, c'est l'image du jugement. Cette identité qu'on a affecte tout ce qu'on fait. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas se baser sur nos ressentis pour définir qui nous sommes. Parce que même nos ressentis ont été impactés par cette corruption qu'on a, par cette nature qui nous colle à la peau. Nos ressentis ne sont pas entièrement bons. Ce n'est pas parce que je ressens quelque chose, comme je le disais, que c'est forcément bon. Et j'ai lu cette citation aussi cette semaine d'un pasteur à Grenoble, en France, qui écrivait ceci. « Pour les chrétiens, ce qui est du domaine de l'inné n'est pas forcément juste ou légitime. Être né pécheur ne rend pas le péché excusable. Nous devons réorienter les gens vers ce qui est vrai. Quel que soit ton état à la naissance, Jésus dit que tu dois naître de nouveau. Peu importe que tu crois être né alcoolique, tu dois naître de nouveau. » Peu importe que tu crois être né menteur, tu dois naître de nouveau. Peu importe que tu crois être né addict à la pornographie, tu dois naître de nouveau. Peu importe que tu crois être né avec telle ou telle lutte sur le plan sexuel, tu dois naître de nouveau. Et comme on le verra, ça ne veut pas dire que ça va enlever complètement la lutte, on y reviendra, mais c'est surtout pour dire qu'en raison de notre nature qui est mauvaise, on ne peut pas se fier à nos ressentis, on ne peut pas se baser sur ce qu'on ressent au plus profond de nous. On a besoin d'une nouvelle naissance, c'est-à-dire d'un nouveau départ à zéro. d'un nouveau cœur, d'une nouvelle identité. Et c'est ce que Jésus est justement venu apporter. Et c'est ce qui nous amène à la troisième affirmation de la Bible par rapport à notre identité, c'est que grâce à Jésus, nous pouvons devenir ce que nous devrions être. Nous pouvons devenir ce que nous devrions être. Quand on pense à Jésus, on pense à quelqu'un qui est venu comme un exemple de morale, comme un leader religieux parmi beaucoup d'autres, ou comme voilà, quelqu'un qui est venu pour qu'on se souvienne de lui avec une belle page Wikipédia. Mais Jésus est venu pour bien plus que ça. Jésus est venu pour faire ce que personne d'autre ne pouvait faire. Jésus est venu pour nous donner ce que personne d'autre ne pouvait nous donner et pour nous donner ce qu'on ne pouvait pas atteindre par nous-mêmes, avoir par nous-mêmes. Jésus est venu pour nous donner une identité fiable, stable, solide et durable qu'on n'aurait pas pu avoir à nous-mêmes. On doit réaliser que l'existence de Jésus sur cette terre est quelque chose d'extraordinaire. Non seulement extraordinaire en raison de qui il est, il a été envoyé par Dieu lui-même, c'est le Fils de Dieu que Dieu envoie dans ce monde comme un cadeau précieux. Mais plus que ça, il était Dieu lui-même venu sur terre. Et on doit se dire, mais c'est quelque chose d'extraordinaire que Dieu lui-même vienne sur terre parmi les êtres humains qu'il a créés. Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Pour quelle raison? Mais l'existence de Jésus était extraordinaire aussi en raison de ce qu'il a fait. Jésus a accompli des miracles sans nombre. Il a guéri des malades, il a calmé la tempête par la puissance de sa parole, il a ressuscité des morts, il a ouvert les yeux des aveugles. Jésus a accueilli ce qui était rejeté de la société. Il a dénoncé les hypocrites, il a mis en avant ce qui était bon, ce qui était juste, et montré la manière dont nous devons vivre. Mais surtout, Jésus a vécu une vie parfaite, sans aucune faute, sans jamais désobéir à Dieu, sans jamais avoir quelque chose à cacher, au plus profond de lui-même. Jésus a vécu comme nous aurions dû vivre, une vie parfaite d'obéissance à notre Créateur. Et c'est une surprise pour personne de dire que Jésus a terminé sa vie en mourant sur une croix. Et si Jésus meurt sur une croix, c'est pas parce que lui, il était coupable. En fait, si on lit les récits de la crucifixion, on doit réaliser que Jésus, c'est le seul qui n'est pas coupable. Tous les autres sont coupables. Tous les autres auraient pu être condamnés pour une raison. Mais Jésus, il n'avait aucune raison d'être condamné. Et pourtant, c'est lui qui meurt sur la croix. Et sa mort n'était pas un échec, comme si il avait été pris de court par les hommes. Voilà, son plan avait échoué, c'était une belle histoire, mais qui s'arrête ici. Non, sa mort était prévue des centaines d'années avant sa naissance. Sa mort est l'apogée du plan de Dieu, du plan que Dieu a mis en œuvre pour sauver les êtres humains. C'est le point central de l'histoire, là où toute l'histoire humaine trouve son accomplissement. Et c'est pour ça que si on cherche des réponses profondes de qui nous sommes, c'est à la croix qu'il faut regarder. Parce que ce qui s'est passé à la croix est extraordinaire, et unique, et particulier. Sur la croix, Jésus a pris sur lui le poids du péché, la condamnation que nous méritons, que nous avons entraînée. Jésus se sacrifie à la place de ceux qui sont coupables. Il donne sa vie librement comme un cadeau précieux, alors qu'il n'avait aucune obligation de le faire. Jésus est condamné pour qu'on ne le soit pas. Il prend la culpabilité à notre place. Et on voit en lisant ces récits-là que Jésus est mort, mais qui n'est pas resté mort. Et ça, c'est la bonne nouvelle que la Bible présente, que Jésus est revenu à la vie 3 jours après sa crucifixion parce que la mort ne pouvait pas le retenir. Parce que Jésus, sur la croix, a réellement vaincu le péché et toutes ses conséquences. Ce qu'aucun autre être humain n'a pu faire. Ce qu'aucun autre prophète n'a pu faire. Ce qu'aucun autre leader religieux n'a pu faire. Jésus est le seul qui ait réglé définitivement, durablement, le problème profond de l'être humain. Celui de notre corruption, notre identité mauvaise et pécheresse. Et parce que Jésus est ressuscité, alors il est vivant aujourd'hui et il règne en Seigneur de l'univers, en roi de ce monde. Et donc, puisque Jésus règne, puisque Jésus est Seigneur, alors c'est lui qui a même de définir la manière dont nous devons vivre, notre identité. Et le message qui nous adresse à nous, chacun de nous en tant que Seigneur, c'est « Vous devez naître de nouveau. Vous devez changer qui vous êtes parce que vous n'êtes pas ce que vous devriez être. Vous avez besoin d'une nouvelle identité pour échapper au jugement auquel vous faites face. » Et cette identité se trouve en Jésus. La bonne nouvelle que la Bible présente, c'est qu'en plaçant notre confiance en Jésus, on peut être pardonné de toutes nos fautes. L'historique de notre culpabilité peut être entièrement effacé parce que Jésus a payé pour ça. On peut être lavé, pardonné et avoir une nouvelle identité, l'identité dont on a besoin. Et ça, c'est un message qui est radical dans la société dans laquelle on vit parce qu'on vit dans une société de performance. Pour avoir quelque chose, il faut que je le mérite, il faut que je le gagne, il faut que je montre que je suis à la hauteur. Mais l'Évangile transforme ça, parce qu'on ne pourra jamais par nous-mêmes être ce qu'on devrait être, c'est-à-dire parfait, acceptable aux yeux de Dieu. C'est comme si on mettait une barre ici à des kilomètres au-dessus de ce bâtiment, ou en l'air dans le ciel, et qu'on devait atteindre cette barre, toucher cette barre de la main en sautant. C'est impossible. On a beau sauter de toutes nos forces, aussi haut qu'on veut, on n'arrivera jamais à atteindre la barre. Où je lisais une citation cette semaine de quelqu'un qui disait que essayer de se sauver soi-même, essayer d'enlever notre propre nature nous-mêmes ou d'atteindre le ciel par nous-mêmes, c'est comme essayer d'atteindre le ciel avec une corde de sable. C'est voué à l'échec. Ça ne peut pas marcher. Mais par grâce, contrairement au mérite qui règne dans notre société, Dieu nous offre cette identité dont on a besoin. Et il y a ce verset magnifique dans la Bible qui dit ceci, « Si quelqu'un est en Christ, en Jésus, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Voilà l'identité dont nous avons besoin. Jésus, en Jésus, nous pouvons être une nouvelle créature, créée à nouveau, comme nous aurions dû être. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est un nouveau départ, un départ à zéro. Ce qu'on voit dans l'Évangile, c'est que Jésus fait de nous ce que nous ne sommes pas pour que nous puissions être ce que nous devrions être, parfaits aux yeux de Dieu. Et c'est là où la foi chrétienne se distingue de toutes les autres religions, en montrant que le salut que Dieu donne, c'est justement quelque chose que Dieu donne. C'est quelque chose par grâce. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut mériter. Sinon, si c'était sur les mérites, aucun de nous ne pourrait être juste aux yeux de Dieu. Et alors, pour toucher à la fin de ce qu'on voit ensemble, quelles implications de tout cela pour notre identité ? J'en ai noté quelques-unes. D'abord, c'est une identité, cette identité que Jésus nous donne par la foi en lui, qui prime sur les autres. Il y a un autre verset dans la Bible qui dit « Il n'y a plus ni juif ni non-juif », en parlant du salut en Jésus. Devant ce salut, il n'y a plus ni juif ni non-juif, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Ce message promeut l'équité parfaite, l'égalité parfaite, parce que peu importe l'identité qu'on aurait, l'identité profonde qu'on a, c'est qu'on est en Jésus. Et ça ne veut pas dire que ça annule les autres identités qu'on aurait dans ce verset, qu'on soit juif ou non-juif, qu'on soit homme ou femme, ces choses-là ne sont pas annulées, ne sont pas effacées, mais il y a une identité qui prime sur toutes les autres, celle qu'on a en Christ, en Jésus. Mais on voit que c'est aussi une identité fixe qui nous permet d'affronter la souffrance, d'affronter les difficultés. Parce qu'on avait dit qu'au début, qu'on pouvait placer notre identité dans toutes sortes de choses, dans mon activité, dans la valeur que je renvoie aux yeux des autres, dans ma sexualité, dans toutes sortes d'autres choses. Mais qu'est-ce qui se passe quand je perds ça ? Est-ce que ma vie s'écroule ? Mais justement, le fait de dire que c'est ça mon identité profonde, ce que je suis, ma valeur aux yeux de Dieu, ça nous aide à affronter ces moments difficiles qu'on peut traverser dans la vie où on perd des choses importantes qui représentent pour nous une partie de qui nous sommes avec cette sérénité. Parce que peu importe ce que si je perds mon travail, mon statut, ma valeur aux yeux des autres, ce que je suis réellement n'a pas changé. Je reste juste aux yeux de Dieu, parfait aux yeux de Dieu, par grâce, parce qu'il m'a sauvé. Et ça, c'est un impact radical pour nous aider à affronter avec joie, avec espérance, les souffrances de la vie. Mais on voit que c'est aussi une identité qui nous permet d'affronter les luttes du quotidien, une identité future, parce que non seulement c'est ce que nous sommes, mais nous savons que nous avons encore cette identité de « nous ne sommes pas parfaitement ce que nous devrions être ». On voit que même en tant que chrétien, on peut lutter avec le péché ou avec des choses mauvaises. Et le fait de naître de nouveau ne signifie pas forcément qu'il n'y a plus de lutte dans ce domaine-là, dans le domaine de l'identité. Parce que le monde est déchu, parce que le monde est corrompu et qu'on reste corrompu. Mais en tant que chrétien, on a une espérance certaine d'un monde où il n'y aura plus de souffrance, où il n'y aura plus de péché, où il n'y aura plus de lutte avec notre identité, où on sera parfaitement comme on devrait être, de manière entière, de manière pleine. Et donc même si aujourd'hui on lutte avec ces choses-là, qui ne sont pas annulées par la nouvelle naissance, par le fait de devenir chrétien, les luttes qu'on a avec notre identité, ça ne fait pas enlever les désirs mauvais qu'on pourrait avoir, c'est des vrais ressentis, qui ne sont pas forcément moralement bons, mais on peut avoir une espérance qu'il y aura une fin à ces luttes, qu'il y aura une fin à tout ça. Des ressentis, par exemple, la tension entre les hommes et les femmes au sein d'un couple, ou la tension de vouloir mentir, de vouloir faire le mal, ou les désirs homosexuels pour certains, c'est des vraies tensions, des vraies luttes qu'on peut ressentir, mais on peut avoir l'espérance que ça ne sera pas pour toujours. Et j'aimerais terminer en parlant juste de Rosaria Butterfield, avec un accent anglais parfait, en fait, elle était prof dans une faculté réputée. Elle était active dans le monde LGBT, elle était lesbienne et cohabitante avec sa partenaire. Et dans le cadre de son travail, elle a dû faire des recherches sur le milieu chrétien. Et donc, un pasteur d'une église dans sa ville l'a invité pour un dîner. Et après plusieurs mois, une réelle amitié s'est créée entre ces deux personnes, et ce pasteur lui a parlé de Jésus, de qui il était. Et elle a ressenti ce tiraillement en elle. Parce qu'à la fois, elle était attirée par la personne de Jésus, mais elle continuait en même temps à être attirée par des femmes. Et elle se demandait, mais comment est-ce que je peux à la fois aimer Jésus et le suivre, et à la fois nier qui je suis, quelqu'un de tendance homosexuelle. Elle avait vraiment cette lutte autour d'elle. J'aimerais juste lire là, une citation un peu longue, mais on va gentiment terminer avec ça, où elle explique ceci. Et j'ai piqué ça à Steve, je le dis sans scrupule. Donc elle écrit ceci. Il y a 20 ans de cela, je vivais comme une homosexuelle et j'avais une partenaire que j'adorais, tout comme notre maison dans la région des Finger Lakes, nos Golden Retrievers et notre boulot. Lorsque Christ m'a appelé pour être à lui, je n'ai pas cessé de me sentir homosexuel. Je n'ai pas cessé d'aimer les femmes. Je n'étais pas converti de mon homosexualité. J'étais converti de mon manque de foi. À l'origine, ma conversion à Christ n'a rien changé dans mon attirance pour les femmes. Ce que la conversion avait changé en moi, c'était mon cœur et mon esprit. Mon esprit brûlait pour la Bible et je ne me lassais jamais de la lire ou d'en apprendre davantage à son sujet. L'Évangile m'a apporté une lumière qui a causé un ravage en moi. Elle a fait un ravage dans la vie que j'adorais. La lumière du Seigneur a pleinement éclairé mon péché à travers la loi. Elle a illuminé mon espérance à travers Jésus et l'Évangile. L'Évangile m'a détruite avant que le Seigneur ne me reconstruise pleinement. En disant oui à Jésus et non au désir de ma chair, j'ai appris que le seul chemin vers la paix avec mon Dieu était à travers la croix, celle sur laquelle Jésus est mort et celle que j'étais appelé à porter avec l'aide de Jésus. Je me suis demandé comment j'allais pouvoir vivre dans ce creuset. Comment était-ce possible que ce que j'aimais était péché? Comment pouvais-je haïr mon péché sans me haïr moi-même? Comment pouvais-je haïr mon péché et en même temps être attiré vers lui? J'ai appris que le péché ne perdait pas sa nature de péché tout simplement parce que je l'aimais. J'ai appris que mon homosexualité était une conséquence logique de la chute de l'homme, l'empreinte du péché originel sur certains d'entre nous. Il est un fait que certains d'entre nous sont nés ainsi. Il est aussi vrai que nous sommes tous nés dans le péché, d'une manière ou d'une autre. On peut haïr son péché sans se haïr soi-même, parce qu'en remettant sa vie à Jésus, on se retrouve dans sa justice et non la nôtre. Et elle termine en disant « Notre véritable identité ne se situe pas dans le péché contre lequel nous nous battons, mais dans le Sauveur que nous accueillons. » Notre véritable identité ne se situe pas dans le péché contre lequel nous nous battons, mais dans le Sauveur que nous accueillons. Et pour chacun de nous, peu importe où on en est, voilà où se trouve notre véritable identité, dans le Sauveur qu'on peut accueillir, qui est Jésus. Alors quand Tony Robbins nous dit « Trouvez qui vous êtes vraiment », dans un sens, on pourrait dire oui. La Bible nous montre qui nous sommes vraiment. Mais quand on voit qui on est vraiment au plus profond de nous, c'est pas beau à voir. C'est pas joyeux, on voit la corruption de notre cœur et la réalité de notre rébellion envers Dieu. Et ça nous montre qu'on a besoin d'une nouvelle identité que seul Jésus peut nous donner. Et donc pour vous, si vous découvrez tout simplement aujourd'hui la foi chrétienne, ou si vous connaissez la foi chrétienne depuis longtemps mais que vous n'avez jamais été vraiment engagé, vous avez besoin de Jésus. Le besoin le plus urgent pour vous, c'est de vous détourner de vos fautes, de ce qui vous sépare de Dieu, et de venir à Jésus pour trouver le pardon, de vous détourner de votre vie qui ne va pas dans la bonne direction, et de comprendre, de croire que Jésus est celui qui peut vous sauver de ce jugement auquel chacun de nous fait face en raison de notre désobéissance. Le besoin est urgent et l'appel qui est adressé est réel. Venir à Jésus pour avoir la vie. Venir à Jésus pour avoir le pardon des péchés, une bonne relation avec Dieu, et pour être ce que l'on doit réellement être. Pour ne pas avoir à lutter avec son identité, mais pour laisser Dieu nous dire qui nous sommes, et laisser Dieu nous transformer pour qu'on soit qui l'on doit être. Donc ça, c'est ce que la Bible présente par rapport à l'identité, et c'est avec ça que je voudrais terminer. Et simplement mentionner que si c'est quelque chose qui vous intéresse, on restera là après pour en discuter. Et vous avez aussi sur les tables, je pense que Steve en parlera, un flyer pour un parcours découverte qu'on offre. Si vous voulez savoir plus sur la foi chrétienne, c'est un bon moyen de découvrir plus sur qui est Jésus dans un cadre où on peut poser des questions. Mais je vous encourage en tout cas à ne pas mettre cette question-là de côté. C'est une question qui peut avoir qui a des conséquences éternelles. Et donc ça vaut le coup de s'y intéresser. Donc merci pour votre attention. Je vais laisser Steve venir maintenant pour conclure et expliquer pour la suite, et avant de revenir pour le temps de questions.